Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
Sophie Durocher.
Dans la vie, c'est très important de conserver sa masse musculaire. Mais comment faire pour conserver sa masse musculaire? La réponse avec Isabelle Huot. Bonjour Isabelle.
Allô Sophie. Ben écoute, toi et moi, on a déjà perdu à peu près 5 livres de masse musculaire là, depuis l'âge de 30 ans. C'est fou quand même. Hein?
Moi, je t'aime quand tu m'annonces des bonnes nouvelles. Je t'aime moins quand tu m'annonces des mauvaises nouvelles. Parce que je suis sûre que ça va aller, pas aller en s'améliorant, cette affaire-là. Ça va juste empirer.
Mais il y a des façons de préserver au maximum là, sa masse musculaire. C'est quand même une des premières causes d'invalidité chez la personne âgée. Wow. Je pense à mon père qui est décédé maintenant, mais qui avait vraiment eu une fonte musculaire très, très, très importante. Ça vient souvent avec une malnutrition. On sait qu'en vieillissant, on a moins d'appétit, on mange moins, on mange pas suffisamment de protéines, on ne comble pas ses besoins nutritionnels. On perd des muscles, puis on perd de la force musculaire, puis on s'expose à des chutes et puis à une perte de qualité de vie de façon significative.
Là. Donc, c'est extrêmement important de nous alerter à ça. Donc, ce matin, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, tu nous proposes tes astuces nutritionnelles pour préserver sa masse musculaire. Je t'annonce que c'est un article qui est très lu, donc il y a manifestement beaucoup d'intérêt pour ces questions-là. Numéro un, tu dis adopter une alimentation saine. C'est pas un peu une évidence dans le sens que on revient toujours aux bases, hein, Isabelle, l'alimentation méditerranéenne, pas trop de viande.
C'est encore ça. C'est encore fou, régime méditerranéen qui l'emporte. On a étudié chez des personnes vieillissantes et cette approche-là qui permet de combler vraiment les besoins nutritionnels en vitamines, en minéraux, parce qu'on pense fonte musculaire, on pense nécessairement à protéines, mais c'est plus que ça. C'est vraiment la contribution des vitamines, des minéraux. Et ce régime-là, j'en parle depuis le temps qu'on a des chroniques ensemble, j'en parle tout le temps du régime méditerranéen. Il permet de combler nos besoins en vitamines, en minéraux. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de manger pour plein de raisons. On le dit pour diminuer les risques de maladies chroniques, le cancer, les maladies cardiovasculaires. Mais maintenant, on sait que d'après les enquêtes populationnelles, ben, les gens qui adhèrent à cette approche alimentaire-là conservent mieux leur masse musculaire. C'est sûr que on se le cache pas, on va quand même avoir une fonte musculaire au même poids. Moi, je vois souvent des gens au même poids.
D'accord.
Par exemple, une personne de 70 ans qui a le même poids qu'à 30 ans, mais c'est clair que, par exemple, sur un 150 livres de même poids, il va avoir quand même plus de masse adipeuse versus masse musculaire en comparant à l'âge de 30 ans. Là. Mais le régime méditerranéen, un must.
Un must. Puis on le sait que le muscle pèse plus lourd que le gras.
Oui.
Donc, c'est pour ça que quand on commence à s'entraîner, des fois, on se dit, ah, ben là, comment se fait? Tu regardes la balance, puis ça augmente, mais ça augmente parce que tu as plus de muscles que de gras. Donc, c'est une bonne nouvelle qui a l'air d'une mauvaise nouvelle. En fait, ce que je retiens, là, c'est essentiellement protéines, calcium. Pour quelqu'un qui serait, mettons, végétarien ou même végétalien, les sources de calcium sont peut-être plus réduites. Qu'est-ce que tu as comme suggestion pour quelqu'un qui prend aucun produit laitier, par exemple?
Bon, ben les boissons végétales, ça, c'est certain que les boissons végétales enrichies en calcium, vitamine D, c'est un must. La boisson de soya, c'est la meilleure parce qu'elle est plus protéinée. Mais quand on regarde les études, quel impact des différents types de protéines sur la masse musculaire, on s'est rendu compte que la protéine laitière permettait une meilleure synthèse protéique. Donc, quand je pense, par exemple, les gens qui vont en masse qui veulent prendre la masse musculaire au gym, qui prennent un shake après un lait frappé, ben le lait frappé à base de petit lait, ben il va avoir vraiment une meilleure synthèse protéique qu'un lait frappé végétal, par exemple, à base de protéines de pois ou à base de protéines de soya. Fait que ça, il y a vraiment des études récentes qui ont démontré ça. Ceci dit, le soya reste quand même une meilleure alternative qu'une boisson d'amande ou une boisson d'avoine là qui a très, très peu de protéines. Fait que en vieillissant, il faut prendre 1 g à 1,2 g de protéines par kilogramme de poids. Puis ça se fait bien. On essaie d'avoir à peu près 20 g de protéines à chaque repas. Fait que là, j'ai fait des exemples concrets. Exemple, le matin, si je prends une tasse de céréales, de blé entier, puis je prends une tasse de lait. Ben, du vrai lait va avoir 9 grammes de protéines. Mais ouais. Mon déjeuner n'apporte pas encore assez de protéines. Je dois ajouter un quart de tasse d'amandes qui, elles, vont amener un 8 grammes de protéines. Si je prends deux toasts, ben une seule cuillère à soupe de beurre d'arachide, ce n'est pas suffisant pour aller chercher assez de protéines. Je dois prendre deux cuillères à soupe et aller chercher un pain qui apporte un petit peu plus de protéines. Si je veux prendre, par exemple, un gruyot du lendemain, ben là, mon flocon d'avoine, ma boisson de soya, je rajoute quand même du yogourt grec. Donc, un tiers de boisson de soya, un tiers de yogourt grec et de la graine de chia pour aller chercher mes protéines. Fait que le matin, c'est compliqué, mais le midi, c'est plus simple. Grosso modo, 60 grammes de thon, volaille, poisson ou une tasse de pois chiche et d'amami, on va chercher à peu près le 20 grammes de protéines nécessaires.
Dont on a besoin.
Dont on a besoin. Ça dépend
parce que
du poids corporel.
C'est ça, mais c'est que c'est une chose à laquelle les gens ne pensent pas souvent. Quand tu vois des gens qui essayent de perdre du poids ou qui font des régimes ou des trucs, puis là, ils sont comme, je ne m'a pas mangé de viande. Ben oui, mais c'est parce que là, tu t'enlèves de la protéine. Les gens ont comme associé la protéine avec quelque chose de néfaste, à moins que tu sois évidemment keto, parce que les keto adorent les protéines, puis ils en mettent partout. Peut-être trop, je te vois lever les yeux au ciel. On rentrera pas là-dedans, ma belle Isabelle, mais donc la relation avec la protéine, il faut y réfléchir, puis il faut en être conscient, elle est vraiment importante, les protéines sont importantes pour nous.
Je voudrais surtout en vieillissant, puis on voit beaucoup dans des centres de personnes âgées, des RPA, on voit beaucoup les gens manger une petite soupe aux légumes, les personnes âgées, c'est tellement triste de voir ça parce que l'apport protéique est plus important que jamais à ce moment-là.
Bon, mais c'est à la faute des RPA qui font pas des repas assez équilibrés.
CHSLD, j'ai analysé des menus dans le temps pour le compte du journal.
Je me souviens.
Ça serait le temps de le refaire.
Oui.
Parce que le repas arrive pas chaud, hein. Fait que c'est pas que c'est pas bon. Il y a des nutritionnistes dans les hôpitaux, dans des centres d'hébergement également. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour avoir une assiette équilibrée. Mais le temps que ça se rende, jusqu'aux patients, jusqu'aux clients, c'est froid. Puis c'est souvent des légumes surgelés parce que ça coûte moins cher. Fait que c'est sûr que c'est pas comme un bon repas maison, là.
Mais
c'est moins tentant.
Oui, c'est moins tentant. Puis si, en effet, les deux, mettons que tu as une entrée puis tu as un plat principal, le plat principal, si c'est de la viande puis c'est froid, tu vas avoir tendance à ne pas la manger. Si l'entrée, c'est une soupe, bon, à la rigueur, c'est froid, peut-être moins dérangeant. Donc, tu te retrouves à manger beaucoup de légumes, c'est bien, mais pas de protéines. Donc là, c'est là que tu perds de la masse musculaire, puis c'est là que tu tombes, et c'est là que tu te blesses, puis c'est là que, bon, la déchéance commence. On va prendre un petit 30 secondes, l'importance de la vitamine D. Le lien entre la vitamine D et la masse musculaire, quel est-il, Isabelle?
On se rend de plus en plus compte qu'il y a un lien très fort entre les os et la masse musculaire. Donc, plus on a de masse osseuse, plus on a de masse musculaire. Donc, il y a vraiment une corrélation entre les deux. Puis d'ailleurs, quand on fait de la sarcopénie, donc la perte de muscle, la fonte musculaire, la force de préhension qui est vraiment diminuée aussi, on est beaucoup plus à risque d'ostéoporose et de chute. Donc, c'est très corrélé. C'est pour ça que le calcium et la vitamine D sont hyper importants, tant pour les os que pour la masse musculaire. Et puis, il faut rencontrer les besoins en vitamine D. Puis encore ici, je recommande la supplémentation. Là.
Absolument. Bon, tu es toujours de bons conseils. Merci beaucoup et vive la masse musculaire. Merci, Isabelle.
Oui, les exercices, c'est important.
Oui, oui. Humpa, humpa, tout petit doux.
Très important.
C'est la chanson de Willy Wonka, ça. OK, merci, bonsoir.
Bye.